VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, plus de 300 000 personnes ont fui les violences interethniques dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, au cours des deux dernières semaines. C'est ce qu'annonce mardi le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Babar Galoche, lors d'un point de presse à Genève. Le responsable onusien a souligné que la situation dans la province était gravement détériorée depuis le milieu de la semaine dernière, avec de multiples attaques impliquant les communauté Emma et l'Hindou. Le conflit opposant ces deux groupes ethniques avait déjà fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province riche en or, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Babar Galoche a rappelé que les accrochages entre ces deux communautés avaient contraint quelque 350 000 personnes à quitter leur foyer à la fin de 2017 et au début de 2018. Mais la situation s'était ensuite calmée, dit-il. Selon le porte-parole onusien, les nouveaux déplacements de grande ampleur ont été enregistrés dans trois des cinq territoires administratifs de l'Ituri, en particulier celui de Djougou. Le Cameroun observera vendredi une journée de deuil national décrétée par le président Paul Biya pour saluer la mémoire des 17 soldats tués récemment dans le nord du pays dans une attaque des djihadistes de Boko Haram. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, précise le décret présidentiel. Dans la nuit du 9 au 10 juin, plus de 300 combattants de Boko Haram lourdement armés ont attaqué la localité de Darak, avait affirmé le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo dans un communiqué daté du 12 juin. Selon lui, 16 militaires et 8 civils ont trouvé la mort lors de cette attaque et 64 djihadistes ont été abattus durant la riposte de l'armée. Mais des sources sécuritaires de la région avaient pour leur part fait état de 37 morts, dont 21 militaires et 16 civils. Bien qu'affaibli, le groupe djihadiste Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Rébellion au Tchad, le général Mahamat Nouri, un important chef rebelle tchadien, et deux autres protagonistes soupçonnés d'être liés à des exactions entre 2005 et 2010 pendant la crise au Tchad et au Darfour, sont en état d'arrestation en France depuis hier. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le général Mahamat Nouri a été arrêté en région parisienne dans le cadre d'une enquête pour crimes contre l'humanité, complicité de ses crimes et association de malfaiteurs. Les deux autres suspects interpellés sont aussi des Tchadiens. Leur garde à vue peut durer 96 heures. Le général Nouri est un proche d'Hissène Habré, renversé en 1990 par Idriss Déby Itno, l'actuel président. Ministre de la Défense puis ambassadeur en Arabie Saoudite, il est entré en rébellion en mai 2006 et s'est installé au Soudan. En novembre 2006, il lance une première offensive avant d'être repoussé par l'armée dans l'est du Tchad. Deux ans plus tard, en février 2008, il lance une autre grande offensive sur N'Djamena avant d'être chassé par l'armée tchadienne avec un soutien décisif de la France. Le général condamné à mort au Tchad a été expulsé du Soudan en 2010. Il s'est exilé un an au Qatar avant de se réfugier en France.
Soudan, le mouvement de contestation appelle à de nouveaux rassemblements nocturnes pour condamner ce qu'il qualifie de massacre de manifestants lors de la dispersion le 3 juin d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les précisions de Morgane Guiriec.
L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a mobilisé hier ses partisans pour de nouvelles manifestations nocturnes dans les quartiers résidentiels de Khartoum et d'autres régions pour réclamer un pouvoir civil de transition et pour la condamnation du massacre du 3 juin. Des milliers de manifestants participant à ce sit-in devant le quartier général de l'armée ont été violemment dispersés par des hommes armés en tenue militaire faisant des dizaines de morts. Le Conseil militaire a reconnu jeudi, pour la première fois, avoir ordonné la dispersion du sit-in en regrettant des erreurs. Les États-Unis et l'Union africaine ont appelé à la reprise du dialogue suspendu depuis le 20 mai. Après une visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Khartoum, les chefs de la contestation ont cessé la campagne de désobéissance civile et ont accepté le principe d'une reprise des pourparlers avec le Conseil militaire. Mais aucune date n'est fixée pour de telles reprises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été enterré sous haute surveillance ce mardi au Caire, en présence d'une dizaine de membres de sa famille seulement. L'ex-chef de l'État est décédé hier à l'hôpital après un malaise lors d'une audition au tribunal. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont réclamé une enquête sur sa mort. Bagassikoura.
Mohamed Morsi avait 67 ans. Il a été le premier président démocratiquement élu en Égypte pour une courte mandature entre 2012 et 2013, avant d'être écarté par l'armée. Il était emprisonné depuis sa destitution. Il avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires, dont un dossier d'espionnage pour l'Iran, le Qatar et des groupes militants comme le Hamas à Gaza. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage, le qualifiant de martyr. Depuis la destitution de Morsi en 2013, son ancien ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi a mené une répression sans merci contre l'opposition islamiste et en particulier les frères musulmans dont des milliers de membres ont été emprisonnés.
L'économie en Afrique maintenant. En République centrafricaine, la capitale Bangui est frappée depuis plusieurs jours par une pénurie d'hydrocarbures. De longues queues de voitures, motos et personnes avec des bidons sont observées devant les stations-service, une situation qui affecte non seulement les activités de la population, mais aussi l'économie du pays. Reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Cela fait deux semaines déjà que cette crise d'hydrocarbures perdure à Bangui et dans certaines villes du pays. Toutes les stations-service sont prises d'assaut, mais le carburant y coule à compte-gouttes. Pour s'en procurer, il faut passer des heures, voire toute une journée dans la queue. L'exaspération est grande chez les consommateurs.
On a fait des queues jusqu'à fatiguer.
C'est beaucoup difficile, surtout pour nous les taxis-motos. Et puis, vous voyez que les clients, en train de nous donner seulement 150 francs, 100 francs pour faire 2 ou 3, 4 à 5 kilomètres.
Cette situation laisse libre cours à la spéculation. Des revendeurs occasionnels s'entendent avec les pompistes, achètent du carburant en grande quantité et revendent cher devant les stations. Jean Fernand est journaliste, il a aussi enquêté sur cette pénurie.
Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs à la sauvette qui essayent de profiter de cette situation, eux, ils trouvent moyen, quelque part, de gérer directement avec les pompistes qui leur donnent parfois de carburant à quantité. Mais ces carburants qu'ils vont avoir entre les mailles, eux, ils vont faire de la spéculation. En quoi faisant? En faisant un peu le mélange avec le pétrole pour avoir beaucoup plus de quantité que eux, ils vont revendre encore plus cher.
L'Observatoire centrafricain des consommateurs monte au créneau et appelle à la ferme contre les marketeurs, c'est-à-dire ceux qui approvisionnent le pays en carburant. Marcel Moukwapi, son président.
Dans nos renseignements, nous savons qu'il y a suffisamment de carburant donc au dépôt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une politique de surenchère ou de pénurie provoquée. Est-ce que c'est de connivence avec les vendeurs ambulants? Est-ce de connivence? Est-ce que les autorités le savent? Ils le savent. Pourquoi ils ne tapent pas sur la table? C'est ça leur devoir.
À l'origine de cette crise, un incendie survenu le 31 mai dernier à la raffinerie de Sonata à Limbé, au Cameroun. Une des principales voies de ravitaillement de la République centrafricaine en hydrocarbures. Ne voulons pas parler d'une pénurie, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique annonce des mesures pour ravitailler la capitale. Herbert Gontron, Djono Abba.
Des actions sont en train d'être menées pour permettre aux marketeurs de continuer à assurer l'approvisionnement régulier du pays. Une cargaison de 3000 mètres cubes contenant du super, du jet A1 et du gasoil est en chargement à 7 Congo, Kinshasa pour la remonter sur au aussi, les commandes faites avant l'incendie de Sonara continuent d'être acheminées sur Bangui par camion citerne.
Le député de l'opposition André Nalké Dorogo exige une enquête parlementaire car pour lui, la loi sur le stockage des produits pétroliers n'est pas respectée.
La représentation nationale qui est chargée du contrôle de l'action du gouvernement au travers de la commission production de ressources naturelles, développement durable et environnement, cette commission devra se saisir ou bien surtout saisir pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin que rapport soit produit et mis à la disposition de l'opinion nationale, notamment du peuple centrafricain.
Plusieurs activités sont au ralenti à Bangui en raison de cette pénurie. La population appelle les autorités à vite décompter la situation. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.